de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire aujourd'hui et mon Indonésie. Pour la rubrique suivante, vous allez écouter magazine culturel, apprendre l'Indonésien et une chanson indonésienne. Voilà notre programme pour aujourd'hui. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant le journal.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Serviteurs, bonsoir, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie est considérée comme avancée dans la lutte contre la pêche illégale. Le gouvernement indonésien déclare qu'il faut arrêter l'utilisation du mercure. L'Indonésie accorde une aide à la formation de la police lors de la 50e réunion du sommet du PIF à Tuvalu. Ridwan Kamil visitera 26 institutions en Europe. La Chine est intéressée à apprendre le système Minapadi de l'Indonésie. Et enfin, la Banque d'Indonésie rassemble les PME avec les hommes d'affaires économiques de Johor et de Singapour. Voici le journal complet. L'Indonésie est considérée comme avancée dans la lutte contre la pêche illégale. Cela est indiqué par le succès du lobby Indonésie d'augmenter la vigilance mondiale aux activités de pêche illégale non déclarées et non réglementées, IWN, a déclaré la ministre des Affaires maritimes et de la pêche, Susi Pujiastuti, à Jakarta lundi. Selon Madame Susi Pujiastuti, l'Indonésie a encouragé le forum du sommet du G20 à reconnaître que l'activité de pêche illégale non déclarée et non réglementée est un crime qui doit être pris au sérieux. La ministre Susi a également souligné l'importance pour les différentes parties de prendre des engagements communs. L'un des moyens de réaliser une action commune consiste à inviter différents pays à partager leurs données du système de surveillance des navires. Auparavant, l'Association indonésienne des spécialistes des sciences de la mer, ISKINDO, a apprécié l'accord conclu lors du forum du G20 concernant l'initiative et le leadership d'Indonésie dans la lutte contre la pratique de la pêche illégale. Lors du forum du G20 qui s'est tenu à Osaka au Japon du 28 au 29 juin 2019, les dirigeants des pays du G20 ont réussi à se mettre d'accord sur l'engagement des parties de s'attaquer à la pêche illégale non déclarée et non réglementée au niveau mondial. Le ministère de l'Environnement et des Forêts propose d'arrêter d'utiliser le mercure. Le gouvernement considère qu'il est nécessaire de prendre des mesures massives pour arrêter l'utilisation du mercure. Le mercure a un impact négatif sur l'environnement et les humains. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Forêts, Bambang Hendroyono, a déclaré lors d'une réunion de travail technique intitulée Le plan d'action national pour l'élimination du mercure à Jakarta le lundi 22 juillet que l'utilisation du mercure pouvait nuire à l'environnement et à la santé humaine. Par conséquent, des mesures sont nécessaires pour arrêter et réduire tous les secteurs que le gouvernement doit initier. Il a donné l'exemple de la pollution par le mercure qui s'est produite à Minamata au Japon dans les années 50 et qui a causé la mort de 2200 personnes et des troubles neurologiques graves. Cela était dû aux déchets d'usines d'engrais dans la baie de Minamata contenant du mercure. Bien qu'ils ne se sentent pas directement, la communauté ressentira l'impact du mercure à partir de 10 à 30 prochaines années depuis la survenue de la pollution. Par conséquent, l'utilisation du mercure doit être réglementée à l'échelle mondiale. En tant qu'engagement du gouvernement indonésien pour soutenir la mise en œuvre du sommet du 50e Forum des îles du Pacifique, ou PIF, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le quartier général de la police indonésienne, a fourni une assistance à la formation de la police de formation internationale sur la gestion de l'ordre public à Tuvalu, organisée à Funafuti, Tuvalu, le 22 au 24 juillet 2019. La formation a été ouverte le 22 juillet 2019 par des représentants de la direction de la coopération technique du ministère des Affaires étrangères et assistée par des représentants de la police de Tuvalu, du ministère des Affaires étrangères de Tuvalu, du ministère indonésien des Affaires étrangères et de la police indonésienne ainsi que de 40 participants à la formation. Le représentant de la direction de la coopération technique a déclaré que cette formation de la police était l'un des engagements de l'Indonésie envers Tuvalu dans le cadre Sud-Sud. On espère que cette formation pourra renforcer les relations d'amitié entre l'Indonésie et Tuvalu et ouvrir des possibilités de coopération dans d'autres domaines. Ridwan Kamil, gouverneur de Java West, effectuait une visite de travail en Angleterre et en Suède du 21 au 26 juillet 2019. Pendant 6 jours en Europe, il rencontrera 26 institutions. Ridwan Kamil, dans un communiqué de presse publié dimanche, a affirmé que l'un des réunions discuterait de la finalisation de l'investissement dans la gestion de déchets plastiques au diesel d'une société britannique, Plastic Energy Limited, avec un investissement de 3 trillions rupiah. Il se rendra également directement au siège de Plastic Energy Limited. En outre, il discutera du programme English for Ulama avec plusieurs institutions britanniques. Selon Ridwan Kamil, la Grande-Bretagne deviendra l'un des pays de destination des ambassadeurs de Java Occidental, diplômés de l'anglais pour les ulémas, afin d'exprimer l'islam pacifique dans le monde entier. Le ministère des Maritimes et de la Pêche a déclaré que la délégation du Centre chinois de recherche sur les pêches en eau douce, ou WFRC, s'intéresse au système Minapadi et a appris ce système qui offre un double avantage aux agriculteurs indonésiens. Dans un communiqué de presse reçu dimanche à Jakarta, Slamet Subiakto, directeur général de la culture de la pêche, a exprimé sa profonde gratitude à la délégation de WFRC qui a accordé une grande attention au système Minapadi indonésien. Selon lui, Minapadi, qui associe le champ de produits de la pêche au champ de riz, est devenu l'une des activités prioritaires de ce ministère depuis 2016. La délégation de la Chine, qui a 7 personnes du Centre de recherche sur la pêche en eau douce de Chine, a directement observé l'activité de Minapadi à Sukoharjo, qui est le projet pilote de Minapadi du ministère du 15 au 17 juillet et a également discuté avec les agriculteurs locaux. Banque Indonésie, ou BI, a invité les hommes d'affaires du Johor, de la Malaisie et de Singapour à participer au festival de Sharia et de halal des îles Riau à Batam dimanche. Fajar Majardi, chef de la Banque indonésienne des îles Riau, a déclaré que 12 hommes d'affaires de ces deux pays voisins avaient rencontré 27 hommes d'affaires des micro, petits et moyennes entreprises. Outre la réunion d'affaires entre des entrepreneurs de la Banque indonésienne et des hommes d'affaires singapouriens et malais, le festival Sharia et halal des îles Riau permet également de réunir des donateurs de bienfaisance avec des mosquées nécessitant des dons à travers le QR de charité. C'est un code QR pour faciliter la charité numériquement. Après le niveau provincial, un festival similaire sera également organisé dans les régions de Sumatra, notamment à Palembang du 3 au 5 août 2019 et à son apogée festival économique de la charia d'Indonésie à la fin de l'année qui se déroulera à Jakarta. Serviteurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Cinquième longtemps, voici donc le commentaire ayant pour le titre « L'expansion du marché non traditionnel est-elle une solution pour surmonter le déficit de l'équilibre commercial ?» Le ministère du Commerce continue d'accélérer l'expansion de nouvelles destinations d'exportation vers d'autres pays en tant que marché non traditionnel. C'est ce qu'a affirmé le ministre du Commerce Enggartiarto Lukita au public lors de sa visite à Shanghai en Chine lundi. Il a déclaré que l'intensification et l'extensification du commerce indonésien devaient être réalisées pour couvrir le déficit de l'équilibre commercial. L'intensification est effectuée pour les produits existants, tandis que l'extensification du marché se fait par l'ouverture de nouveaux marchés. Jusqu'à 2020, le gouvernement tentera d'achever l'expansion du marché. Rétrospectivement, l'équilibre commercial de l'Indonésie en avril 2019 souffrait d'un déficit de 2,5 milliards de dollars américains. Le montant de ce déficit est le pire depuis 2013. Cela est causé par la valeur des exportations qui a chuté à 10,8% en raison du ralentissement de la croissance économique mondiale. Malgré qu'il y ait une augmentation qui atteint un excédent d'une valeur de 540 millions de dollars américains en mars 2019, jusqu'à présent, le gouvernement indonésien a continué à travailler dur pour résoudre le déficit de l'équilibre commercial en encourageant l'expansion des accords commerciaux sur les marchés non traditionnels. En fait, depuis le début 2019, le gouvernement indonésien a élargi l'accès aux exportations, en particulier pour les produits non pétroliers et gazières, vers des marchés non traditionnels. Cela peut se faire par le biais de missions commerciales, de promotion à l'exportation et de la conclusion d'accords bilatéraux. Certains efforts ont été déployés, par exemple, organiser les missions commerciales, promotion commerciale et jusqu'à la coopération spéciale en matière de financement des exportations avec des pays d'Afrique, d'Asie du Sud et du Moyen-Orient, de Nouvelle-Zélande et de Turquie. À court terme, les politiques visant à accroître les exportations sont faites par la sélection des produits d'exportation de qualité supérieure, la réduction des coûts et la simplification des exportations procédurales ainsi que par la diplomatie économique et un meilleur accès au marché. Cependant, plusieurs points doivent être relevés en ce qui concerne les étapes des accords commerciaux avec ces pays non traditionnels. Par exemple, les petits et débutants exportateurs en Indonésie ont encore du mal à exploiter le potentiel commercial de leurs partenaires, notamment des pays non traditionnels, en raison du peu d'informations reçues. C'est l'un des obstacles empêchant pour les exportations d'accroître leurs exportations. En fait, les informations sur le potentiel et les opportunités du marché sont le point clé du développement des exportations nationales. Avec ces conditions, bien sûr, nous espérons que les étapes d'un accord commercial sur le marché non traditionnel peuvent être réalisées de manière complète et évidente. Ainsi, la réalisation attendue sera appropriée pour couvrir le déficit de l'équilibre commercial. Serviteurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire d'aujourd'hui. Le 23 juillet, la journée nationale de l'enfance. En Indonésie, la journée nationale de l'enfance est commémorée chaque 23 juillet, conformément au décret présidentiel de la République d'Indonésie numéro 44 l'année 1984, du 19 juillet 1984. Ensuite, le gouvernement a créé la Commission indonésienne de la protection de l'enfance, ou KPAI. Le KPAI, en tant qu'institution indépendante, supervise la mise en œuvre des efforts de protection de l'enfance menés par les institutions de l'État et enquête sur les violations des droits de l'enfance commises par l'État. La commémoration de la Journée nationale de l'enfance est un élan pour susciter l'inquiétude et la participation de tous les Indonésiens au respect et à la garantie des droits de l'enfant. Le 23 juillet 2001, Megawati Soekarnoputri a été assermentée à la présidence de l'Indonésie. Elle a été la première femme présidente indonésienne et la fille du premier président indonésien Soekarno. Elle est devenue présidente après la tenue d'une session extraordinaire de l'Assemblée consultative du peuple, ou MPR, en 2001, en réponse à la décision du président Abdul Rahman Wahid de geler les institutions du MPR-DPR et du Parti Golkar. Auparavant, de 1999 jusqu'à 2001, Megawati Soekarnoputri était vice-présidente du gouvernement du président Abdul Rahman Wahid. Sous son règne, les élections présidentielles ont lieu directement et ont généralement été considérées comme l'un des succès du processus de démocratisation en Indonésie. Elle a perdu l'élection présidentielle de 2004 et a dû céder la présidence à Susilo Bambang Yudhoyono, ancien ministre de la coordination sous son règne. Le 23 juillet 2005, un attentat à la bombe a eu lieu à Sharm el-Sheikh, une destination touristique d'Égypte située à l'extrémité sud de la péninsule du Sinaï. 88 personnes ont été tuées dans l'attaque, la plupart égyptiennes, et plus de 200 blessés. Cet attentat est devenu l'acte terroriste le plus meurtrier de l'histoire égyptienne. L'attaque a eu lieu le jour de la révolution égyptienne, une fête nationale en Égypte, et faisait partie d'une stratégie visant à perturber l'économie égyptienne en s'attaquant à l'industrie du tourisme. C'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Yang ku berikan hanya untukmu. ucap. Akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakinkanmu, ku hapus hitamku untukmu. Ku hapus hitamku untukmu. Ku hapus hitamku untukmu.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée « Mon Noir » chantée par Andra and the Backbone. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutez maintenant « Mon Indonésie ». Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici Mode Indonésie, intitulé L'Indonésie et la Lettonie réaffirment leur engagement à renforcer la coopération bilatérale. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a rencontré son homologue de Lettonie, Edgar Rinkevičs, au ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie à Jakarta. Comme indiqué par la page kemlu.go.id, lors de la réunion, les deux ministres des Affaires étrangères ont réaffirmé l'engagement des deux pays à renforcer la coopération bilatérale à l'avenir. Les deux pays ont convenu de renforcer les coopérations bilatérales sur un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine du commerce, l'investissement, des contacts interpersonnels, notamment le tourisme et la culture. La Lettonie est le principal partenaire commercial de l'Indonésie dans la région de la Baltique, avec une tendance à la hausse de la valeur des échanges ces cinq dernières années. Le nombre de touristes lettons qui visitent l'Indonésie au cours de la même période a également connu une tendance à la hausse similaire. La ministre Retno Marsudi a déclaré qu'elle appréciait l'initiative du ministre des Affaires étrangères de Lettonie qui a amené les hommes d'affaires lettons du secteur de la technologie de l'information, du bois et de l'éducation à explorer des relations commerciales avec des partenaires commerciaux indonésiens. C'était la deuxième réunion des deux ministres des Affaires étrangères après la réunion en mars de la réunion ASEAN-Union européenne en octobre 2016 à Bangkok. Cette visite était la deuxième fois que le ministre des Affaires étrangères Rinkevičs se rendait en Indonésie après sa visite en 2012. Les relations bilatérales entre les deux pays s'étaient bien déroulées. En 2018, une réunion de consultation bilatérale au niveau du directeur général s'est tenue à Riga, en Lettonie. L'Indonésie a établi des relations diplomatiques avec la Lettonie depuis 1993, soit 2 ans après le rétablissement de l'indépendance de la Lettonie vis-à-vis de l'Union soviétique. Lors de la réunion avec le ministre des Affaires étrangères Rinkevičs, la ministre Retno Marsudi a déclaré la vision du président Joko Widodo pour les 5 prochaines années, notamment concernant l'investissement et le développement des ressources humaines. En plus de discuter des questions de coopération bilatérale, les deux ministres des Affaires étrangères ont également discuté de questions régionales et mondiales d'intérêt commun telles que perspective de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique, les négociations de l'accord de partenariat économique global entre l'Indonésie et l'Union européenne et la coopération se soutient mutuellement pour la candidature dans les organisations internationales. C'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Aku yang memikir Coba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekedar harapku. Mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku ada di sini menemaniku. Oh, mungkinkah kau yang jadi kekasih sejatiku? Semoga tak sekedar harapku. Bila tak menjadi sekedar harapku. Semoga tak sekedar harapku.
C'était une chanson intitulée Vrai Amoureux, chantée par Monita. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Chers amis, écoutons maintenant Magazine Culturel.
Bonsoir à tous, voici le Magazine Culturel introduisant la danse de bienvenue. La voix de Tifa, un instrument de musique typiquement papou, accompagnant chaque mouvement des danseurs de la danse de bienvenue. La danse de bienvenue est la sagesse et la culture noble du peuple papou. Pour le peuple papou, cette danse est interprétée comme une forme de respect et indique également que l'invité a été bien reçu, ainsi qu'une expression de gratitude et de bonheur pour le peuple papou, en accueillant ses invités. La danse de bienvenue est dansée par des danseurs masculins et féminins pour accueillir des invités d'honneur ou des personnalités importantes. La danse de bienvenue est exécutée dans une foule. Initialement, les danseuses formaient un cercle et chantaient avec entrain. Les danseuses prennent les invités d'honneur, puis portent un collier et un couvre-chef en guise de respect. Les invités seront invités à danser ensemble jusqu'à la fin. C'est un symbole que les invités ont été très bien reçus par le peuple papou et en font désormais partie. Les danseurs se sont ensuite joints à la danse lorsque la danse était à mi-parcours. Ils sont allés de temps en temps en levant des lances, des flèches et d'autres armes. Plus la danse est longue, plus le cercle qu'ils forment est grand, plus les chansons qu'ils apportent sont excitées. Les chansons chantées dans la danse de bienvenue sont généralement des expressions de gratitude et des histoires sur tout ce qui est positif à propos de la vie. Ils croient que ces paroles positives rendront les invités plus à l'aise lors de leur visite et inversement, ils donneront une valeur positive à l'hôte. Dans la danse de bienvenue, les danseurs portent des costumes d'écorce d'arbre et de racines de plantes. Les ingrédients naturels sont traités de manière à pouvoir fermer le corps. Les danseurs portent des couvre-chefs, des colliers et des bracelets. Les peintures ethniques colorent également le corps. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Terlalu jauh.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était la troisième chanson intitulée « Croyez-moi » chantée par Afghan et Reza. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant « Apprendre l'Indonésien ». Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique « Apprendre l'Indonésien ». Ce programme est une collaboration entre la voix de l'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est « sakit perut » ou en français « avoir mal au ventre ». Maintenant, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « sakit perut » ou en français « avoir mal au ventre ». Tony est malade, Joko l'a amené chez le médecin. Tony est dans la salle d'examen.
Halo, kenapa mas?
Saya sakit perut dan mual.
Buang air terus tidak?
Iya, hari ini sudah 4 kali.
Oh, silakan berbaring di sana. Saya akan memeriksa Anda.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir sakit perut, ou en français, avoir mal au ventre. Je vais prononcer 2 fois et vous pouvez répéter après moi. Kenapa, en français, pourquoi? Saya sakit perut dan mual. Saya sakit perut dan mual. En français, j'ai mal au ventre et des nausées. Buang air terus tidak. En français, continuez à défecter ou non. Ya, hari ini sudah empat kali. En français, oui. Aujourd'hui, c'est 4 fois. Silakan berbaring di sana. En français, s'il vous plaît, mentir là-bas. Saya akan memeriksa Anda. En français, je vais vous examiner. Belajar bahasa Indonesia. En français, apprenez l'indonésien. Saya pusing. En français, j'ai la tête qui tourne. Saya sakit kepala. En français, j'ai mal à la tête. Saya demam. En français, j'ai de la fièvre. Saya batuk terus menerus. En français, je tousse constamment. Dans le dialogue, vous écoutez le médecin demander « Anda kenapa? Anda kenapa? » En français, « Pourquoi êtes-vous? » L'intention du médecin dans le contexte du dialogue est de demander la raison de votre traitement et de vous demander de décrire votre plainte. Le mot kenapa, en français pourquoi, est utilisé pour demander la raison ou la cause de quelque chose. Exemple d'utilisation de mots de question kenapa. Kenapa kamu terlambat? En français, pourquoi es-tu en retard? Kenapa kamu sakit perut? En français, pourquoi as-tu un mal au ventre? Le mot kenapa est seulement utilisé dans la conversation de variété occasionnelle. Pour la variété officielle ou par écrit, le mot de question utilisé est mengapa. En français, pourquoi? Comme par exemple, mengapa Anda belajar bahasa Indonesia? Mengapa Anda belajar bahasa Indonesia? En français, pourquoi avez-vous étudié l'indonésien? Ensuite, ces exemples des expressions pour soumettre votre plan. Saya pusing. Saya pusing. En français, j'ai la tête qui tourne. Saya sakit kepala. Saya sakit kepala. En français, j'ai mal à la tête. Saya demam. Saya demam. En français, j'ai de la fièvre. Perut saya sakit. Perut saya sakit. En français, j'ai mal au ventre. Saya merasa mual. Saya merasa mual. En français, je me sens nauséeux. Saya batuk terus-menerus. Saya batuk terus-menerus. En français, je tousse constamment. Chers amis, avant de terminer Apprendre l'indonésien aujourd'hui, nous allons présenter encore une fois une conversation en indonésien. Merci à tous et au revoir.
Halo, kenapa mas?
Saya sakit perut dan mual.
Buang air terus tidak?
Iya, hari ini sudah 4 kali.
Oh, silakan berbaring di sana. Saya akan memeriksa Anda.
Kulihat permaja di pelukan.
Vous avez écouté tout à l'heure une chanson intitulée Un rêve, chantée par Anggun. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voynews.id. Chers amis, écoutons maintenant une chanson indonésienne.
Voice of Indonesia, d'Indonésie à tout le monde. Cette fois, nous vous présentons une chanson malaise de Laila Hashim et Shaiful intitulée Bercerai Kasih. La chanson Bercerai Kasih raconte une histoire d'amour triste. Les paroles de la chanson consistent en vers de poèmes, alors que sa musique est assez dynamique pour danser, même si les paroles parlent de rupture d'amour. La chanson intitulée Bercerai Kasih est généralement chantée pour accompagner la danse malaise, à savoir les danses Mainang Selendang ou Hitam Manis. Bon, serviteur, voici donc Laila Hashim et Shaiful avec leur chanson intitulée Bercerai Kasih. Bonne écoute et à demain.
Ah, sire, malam ni kendah lah, Ruth. Jadi macam mana pas hangat suasana malam ni? Coba.
Okay, kita buat. Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
Baik, sire. Nih, dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun hamba. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu Bercerai Kasih, lagu tarinya Mainang Selendang.
Mainang Selendang.
Bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Sakit sungguh bercerai kasih sayang, wajahmu puan jadi kenangan. Rupawan, wajahmu puan jadi kenangan. Sedang berkasih ditinggal pergi.
Bercerai kasih, bercerai sayang, siang dan malam terbayang-bayang.
Bercerai kasih, muda jauh hari, sedang berkasih ditinggal pergi.
Mantap kali juga.
C'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Et merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.